Vous êtes en direct sur le studio Kalangou, mesdames et messieurs. Bienvenue au micro Diallo, Maria Makenda. Tout de suite, le journal en français. Bonsoir à tous. À la une de cette édition, grogne ce matin à Niamey des personnes en situation de handicap. Elles exigent du ministère de la Population le déblocage du fonds alloué aux personnes non valides. Vous entendrez le président de l'association des personnes handicapées, locomotrices, à ce sujet. Célébration demain 3 août du 58e anniversaire de l'indépendance du Niger couplée à la plantation d'arbres, une initiative lancée en 1975 pour lutter contre la désertification. Le constat fait sur certains sites où des dizaines de milliers d'arbres ont été plantés. Actualité oblige, la semaine mondiale de l'allaitement maternel a débuté hier 1er août. La partie magazine sera consacrée aux bienfaits de l'allaitement maternel pour l'enfant. Deux tiers des 24 candidats au premier tour de l'élection présidentielle au Mali ont affirmé mercredi qu'ils n'accepteraient pas les résultats affectés par des irrégularités. Comme les observateurs européens, les candidats réclament la publication des résultats, bureau de vote par bureau et la liste détaillée des bureaux où le vote n'a pas pu avoir lieu le 29 juillet, soit plus de 700 sur les 23 000 que compte le pays, nous apprend une dépêche de l'AFP. Parmi les signataires de la déclaration commune présentée à la presse figurent le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé et l'homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo. Tous les deux se sont déjà dit certains de figurer au second tour prévu le 12 août contre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui selon son camp arriverait largement en tête. Le ministère de l'administration territoriale doit proclamer les résultats officiels vendredi au plus tard. Grogne ce matin à Niamey des personnes en situation de handicap. Elles exigent du ministère de la Population le déblocage du fonds alloué aux personnes non valides. Écoutons à ce sujet le président de l'association des personnes handicapées locomotrices, Oumarou Barmou, au micro de Habibou Garba.
Le Niger, depuis 1999, a pris l'initiative de créer un fonds de soutien aux personnes handicapées. Ce fonds de soutien est géré au ministère de la Population. Le fonds peut prendre en charge la formation professionnelle des personnes handicapées, les métiers, les fêtes de concert des ateliers, etc., etc. À travers le pays, les personnes handicapées envoient leurs demandes dans ce fonds et on traite. Maintenant, ça fait plus de 7 ans que nous sommes en train de constater qu'il y a une sorte de désintéressement total de ce ministère-là par rapport à la gestion de ce fonds. Nous avons dit au ministère, voilà comment il faut faire pour que plus que jamais les personnes handicapées du Niger puissent bénéficier de ce fonds. Et le ministère aussi, vous savez qu'il y a environ 23 boutiques de personnes handicapées qui ont été déguerpies, qui ont été cassées au niveau de Niamey. Et jusque-là, nous n'avons pas pu avoir une solution par rapport à ça.
Chaque 3 août, le Niger célèbre l'anniversaire de son indépendance couplée à une plantation d'arbres sur des sites aménagés. Une initiative lancée en 1975 pour lutter contre la désertification à travers la plantation d'arbres par chaque Nigérien invité à bien l'entretenir. Que deviennent les différents sites officiels où des dizaines de milliers d'arbres ont été plantés? Moussa Hassan a recueilli l'avis de quelques riverains de certains sites de Niamey.
Nous les entretenons bien. Si les clôtures tombent, nous les remplaçons avec des piquets. Nous arrosons les plus petits et les grands, nous les aménageons. Nous les faisons volontairement pour le bien de notre cadre de vie. Présentement, nous sommes sous un arbre, non?
La plantation de ces arbres a vraiment arrangé ces lieux et ils poussent bien. Ils ont amené une brigade des eaux et forêts pour s'en occuper. En fait, il ne suffit pas de planter des arbres. Il faut surtout les entretenir. Car, un peu de vent, ils ont planté des arbres un 3 août. Maintenant, il ne reste plus rien parce que personne ne s'en occupe.
Ils ont planté des arbres et ils s'en occupent. C'est bien. En plus de ceux du 3 août, les eaux et forêts ont planté d'autres et s'en occupent bien. Pour reboiser la ceinture verte, ça j'en suis conscient.
Le jugement de l'affaire que pose la journaliste Samira Sabou à l'Office national d'édition de presse ONEP, prévu aujourd'hui 2 août, est reporté pour le 6 septembre. La communication des pièces et les conclusions de l'ONEP seraient la cause du report, a déclaré l'avocat de la plaignante, Maître Boudal Effray de Mouloul, joint au téléphone par le studio Kalangou. Pour rappel, l'ONEP, éditeur des périodiques Le Sahel et Le Sahel Dimanche, avait mis fin à la collaboration de la journaliste Samira Sabou en octobre dernier et cette dernière a attaqué devant la justice la mesure prise par l'ONEP. Et comme chaque année après l'admission au bac, c'est tout un parcours que font les nouveaux bacheliers, dont la composition des dossiers et le choix de la filière à l'université. Quelles sont les difficultés rencontrées par ces nouveaux bacheliers, Gungoum Mandantani?
Nous sommes à l'école normale supérieure de l'université Abd Moumouni, au service de la scolarité, où nous avons trouvé des dizaines de nouveaux bacheliers venus pour déposer leur dossier sur le choix de la filière qu'ils ambitionnent d'embrasser. Un exercice difficile selon eux.
Depuis ce matin, j'ai dépensé à peu près 5000 francs comme ça. Même ce matin, j'ai acheté jusqu'à 3 timbres. Chaque timbre 200 et un timbre de 1000 francs, ce qui fait 4 timbres. 3 timbres de 200 et un timbre de 1000 francs.
Le frais que j'avais dépensé, ça dépasse plus de 15 000. Et j'ai pas fini encore de préparer mes dossiers.
Le service de la scolarité dispose-t-il d'un système d'encadrement pour aider ces nouveaux bacheliers à faire le choix de la filière et du processus à suivre pour composer leur dossier? Ismaël Situ Mustapha, un des encadreurs du service de la scolarité, répond.
Il y a un système qui vient d'établir de la scolarité qui a bien expliqué les offres de formation à l'université et les modalités au nouveau bachelier. Quand les gens font certains choix, on les conseille que vraiment ça, c'est pas bon. On les explique. On trouve quelqu'un où des gens insistent. Quand ils insistent, nous, là, on peut pas les obliger.
La plupart de ces nouveaux bacheliers ont de la peine à constituer les dossiers pour bénéficier de la bourse. Une situation qui peut porter préjudice à la validation de leurs demandes.
L'Union nigérienne engagée pour la résolution des problèmes de l'éducation au Niger, UNIGERP, a organisé dimanche une conférence débat à l'université Abd Moumouni de Niamey. L'objectif étant de mieux orienter les nouveaux bacheliers dans le choix des filières, a déclaré le conférencier Dr Sido Adamou au micro d'Olivier Agba Assobavi.
Lorsque vous êtes dans les classes de terminale et que vous demandez aux élèves ce qu'ils veulent faire, 70 à 80% des élèves ne savent pas ce qu'il faut faire après le bac. Lorsque vous n'avez pas le goût ou vous ne savez pas là où vous voulez partir, le résultat le plus souvent, c'est un choix inopiné que vous allez faire. Donc premièrement, d'abord, en amont, le candidat devrait avoir une certaine ambition. Moi, je veux faire l'université. Moi, je veux faire un institut. Moi, je veux faire telle carrière. Moi, c'est ça qui me plaît. En principe, c'est comme ça que ça devrait se faire. Puisque vous êtes dans le domaine de l'enseignement général, ça aboutit normalement à un enseignement spécialisé ou un enseignement professionnel. Puisque ça aboutit à cela, vous êtes donc appelé à construire votre mentalité par rapport à ce que vous voudriez faire dès le lycée. Sinon, à partir de la terminale, c'est faire déjà des options. Lorsque vous n'avez pas fait ça, approchez-vous alors de ceux qui ont déjà fait l'université pour pouvoir comprendre ce qu'il y a, ce qu'il faudrait faire.
Propos recueillis par Olivier Assobavi. Fin hier à Niamey de l'atelier de formation des journalistes sur le plaidoyer, l'analyse et le suivi de l'eau engagée organisé par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement avec l'appui de WaterAid. Selon le président du REGEA, cette rencontre de 48 heures a permis aux 20 journalistes de Niamey, Tawa et Tillabéri d'avoir matière à réflexion sur les enjeux liés aux objectifs de développement durable 2030 numéro 6. Ousmane Dambaji au micro de Habibou Garba.
Nous sommes entièrement satisfaits parce que les journalistes ont très bien internalisé toutes les thématiques qui ont été dispensées au niveau de ces deux jours d'atelier, c'est-à-dire l'analyse, les suivis et les plaidoyers des secteurs de l'eau, notamment au RD6, et ce qui nous a permis à la fin, effectivement, de lire un mémorandum d'engagement de ces journalistes. Ils se sont engagés, effectivement, à faire des productions journalistiques pour faire avancer les secteurs. Ils se sont engagés, naturellement, à plaider auprès de décideurs pour, naturellement, la prise en compte des questions de l'assainissement dans le budget national et que ça soit une priorité de souveraineté nationale. Et je pense que toute action qui a l'engagement des journalistes, elle est déjà gagnée à 100%.
Une mission de la Commission nationale de collecte des armes illicites était mardi à Belleyara, région de Tillabéri, pour sensibiliser la population du département sur le danger des armes illicites. Chef de village, acteur de la société civile et association des femmes et des jeunes était à la rencontre. Alassane Fousseni, secrétaire permanent adjoint de la CNCAI, au micro de Seydi Abdou Winditane.
Nous sommes là pour non seulement appeler la population à une vigilance accrue en matière de sécurité en général, mais aussi à une collaboration parfaite dans le cadre de la lutte contre la prolifération et la circulation des armes illicites. Vous n'êtes sans savoir que l'effort de force de sécurité à elle seule ne peut pas arriver à aboutir à juguler ce problème parce que, compte tenu du maillage sécuritaire, compte tenu de la porosité de nos frontières et de l'immensité de nos zones, il est très difficile à ce qu'on puisse placer, si on peut l'imaginer, à chaque kilomètre un élément d'effort de force de sécurité. Donc c'est pourquoi nous disons à la population que vous êtes les yeux par arrière, comme on le dit, de nos forces de défense et sécurité. Il faut collaborer, une parfaite collaboration, il faut les aider à vous sécuriser parce qu'elles sont là pour ça.
Du football, dans le cadre des préparatifs au Niger de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans prévue du 2 au 17 février 2019, une mission de la CAF, Confédération africaine de football, a séjourné à Niamey et Maradi. Objectif, visiter les infrastructures sportives, les hôtels et les médias de Niamey et de Maradi pour s'assurer du bon dispositif technique pour abriter cette compétition. Selon Issaka Adamou, le président de la commission football des jeunes, l'état des infrastructures est acceptable, reste à réaliser quelques travaux. Il est au micro de Soumana Amadou.
Le stade de Niamey, par exemple, il y a les vestiaires qu'il fait rénover. Bon, c'est juste des travaux de reprise de plomberie, d'électricité, de peinture. À Maradi, la pelouse est en très bon état. La mission a vraiment apprécié ça. Il y a quelques juste petits travaux de réaménagement qu'il faut faire. Et l'éclairage. Parce qu'à Maradi, on n'a pas l'éclairage sportif aux normes. Puis il y a le terrain d'entraînement qui doit être doté d'un gazon synthétique. Vous savez, les stades, il y a beaucoup de trucs techniques. Il y a des zones mixtes, il y a des zones réservées exclusivement aux joueurs, il y a des zones réservées aux journalistes, il y a des tribunes réservées aux journalistes, il y a des spécifications, il y a des internet haut débit qui demandent dans certaines zones. Il y a plein de détails techniques, mais que nous connaissons déjà. Nous sommes en train de travailler sur ça. Je pense que nous serons prêts, Inch'Allah. Nous sommes en échange toujours avec la CAF, mais ils ont fait leur mission, on attend leur rapport.
Je vous l'annonçais dans les titres, actualité oblige, la semaine mondiale de l'allaitement maternel a débuté hier 1er août. La partie magazine de ce journal est consacrée aux bienfaits de l'allaitement maternel pour l'enfant.
On a au niveau des différentes régions invité des différentes équipes à organiser des activités dans le sens de la promotion de l'allaitement maternel. Ces activités sont des caravanes de sensibilisation au niveau communautaire, des conférences, débats sur l'allaitement maternel, la diffusion des messages de sensibilisation par les médias au niveau communautaire, la visite de groupes de soutien à l'allaitement maternel. C'est des formes qu'on a mises en groupe au niveau de chaque région pour qu'elles puissent parler de l'allaitement maternel à ses pères et à ses collègues femmes. Il y a aussi des remises de témoignages de satisfaction aux formations santé qui mettent en œuvre ce qu'on appelle l'initiative hôpitaux amis de bébé. C'est quoi? C'est les 10 principales conditions de l'allaitement maternel qu'on veut que ça soit respecté au niveau des formations sanitaires.
Justement, l'allaitement maternel, en quoi il est bénéfique à la vie de l'enfant?
L'allaitement maternel, comme le terme le dit, c'est le fondement de la vie. On définit l'allaitement maternel optimal. Il y a trois phases. D'abord, dès que l'enfant naît, on doit le mettre immédiatement au sein. Dans les 30 minutes même qui suivent la naissance. La deuxième étape, c'est l'allaitement maternel exclusif. Et la troisième étape, c'est l'alimentation de complément, c'est-à-dire à partir de 6 mois, il faut compléter l'allaitement avec certains aliments.
Mais de plus, un certain nombre d'années, l'OMS dit que pour que cet allaitement maternel soit bénéfique pour l'enfant, il faudrait qu'il soit exclusif. Qu'est-ce qu'on entend par cela?
Ça veut dire que le bébé ne doit prendre que le lait de sa maman. Pas d'autres associations, ni eau, ni jus, ni décoction. Et l'allaitement maternel exclusif, c'est de 0 à 6 mois. Ici, chez nous, généralement, on dit, nous sommes dans une zone de chaleur, on ne peut pas ne pas donner de l'eau à l'enfant. Non, si vous prenez le lait maternel, c'est de l'eau, à plus de 80%. Il a vraiment tout. Il a sa nourriture, il a
a ces médicaments, ça protège contre les infections, ça fait la base de la vie de l'enfant. Ici au Niger, nous avons un taux d'allaitement exclusif de 29,6%. 70% des enfants reçoivent un autre aliment de jus ou autre liquide qui ne sont pas lactés. Sinon, notre objectif, c'est vraiment d'atteindre au moins 50% d'allaitement exclusif.
Voilà, c'est tout pour ce journal. Ne bougez pas, Mokhtar Amadou vous parle de l'indépendance du Niger, une rediffusion ici dans le forum de studio Kalango.